Dimanche dernier, je l'ai dit à mon église. J'étais là aussi. Est-ce que on n'en a pas fait assez? Peut-être je me suis passé flagellé. Peut-être j'ai passé jeûné, prié pour mes enfants. Probablement, c'est ça. Mais tout n'est que grâce. Ce n'est pas un marchand de tapis. Hein. Je te donne 14 jours de jeûne et prière, tu te donnes la conversion de mon gosse. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas jeûner et prier. Je dis que tout ne t'appartient pas. Et la preuve, Épître aux Romains. Quand je vois la perdition de mon pays, je ne vous dis pas. La France, on a gagné le pompon. Regardez bien ce qui va se passer à partir de maintenant sur la France et sur toute la planète. J'étais patient avec toi. D'abord, tu m'avortes tous les enfants remboursés par la Sécu pendant 30 ans. Je patiente. Ensuite, la première réforme que tu fais, c'est de marier les homos. En France, je dis les PD. Je m'assume très bien, quoi. C'est clair. Et Dieu aime les PD. Tellement qu'ils doivent venir dans mon église. Je vais prêcher un peu, m'entendre avec eux. Tu vois, ils vont devenir des hétéros formidables. Avec une gentille femme et des gosses. Mais dans ma Bible, Bertrand n'épouse pas Jean-Luc et Simone n'épouse pas Gertrude. D'accord? Et je ne vais pas écrire une autre Bible, que ça plaise à M. Hollande ou pas, que j'aime, il n'y a pas de problème. Je prie aussi pour lui, il y a bien besoin de prier pour lui. Et donc j'étais là et je me dis, ben, Seigneur, et là, le Seigneur m'arrête dans l'Épître aux Romains. Notez bien ça, ça vous déculpabilise tous. Néanmoins, nous devons être vaillants à l'évangélisation. Paul regarde Rome, alors là, ça craignosse, hein, fin d'empire, comme chez nous maintenant. Hein. Ils ont abandonné l'usage de la femme pour, enfin, ouais, tu m'as compris, en pleine homosexualité, en pleine orgie, en pleine dépravation, la décadence de toutes les civilisations qui se sont écroulées. Notez bien que toutes les grandes civilisations se sont jamais écroulées par un ennemi de l'extérieur. Les Grecs, les Mèdes, les trucs, non. C'est toujours par un ennemi intérieur. Et l'Église, ça sera pareil. Le péché au milieu de toi. Que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour de Christ, hein. Tu ne peux pas aimer ce monde et Dieu. Tu ne peux pas faire des compromis, tu ne peux pas jouer à l'église ou jouer à Jésus, à un moment donné, tu vas te faire claquer. C'est pour ça qu'il y a parmi vous un grand nombre de malades, qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, mais lui, il ne veut pas nous juger. Il ne veut pas nous sanctionner, mais il ne veut pas nous perdre non plus. Et j'ai eu des garçons, crois-moi, tais-toi bien, à 12-13 ans, ils vont faire leur crise d'ado, ils se lèvent un matin, trois poils de moustache sont poussés, ils se mettent en pantalon long, ils vont aller voir Brigitte, la maman va dire, bon, maintenant, j'ai dit, oh, tu te calmes, j'ai dit un jour à la mienne. T'as vu sur votre lettre, c'est marqué Monsieur et Madame Brigitte et Philippe Martinez. Donc si tu veux commander, tu te maries, tu fais ce que tu veux chez toi. Mais ici, tu ne donnes pas des ordres à maman, hein, tu te calmes. Et t'es qu'un prédo. Hein. D'accord. Et Dieu, de temps en temps, il nous dit pareil. Je vais te claquer, fais gaffe, je ne veux pas claquer, mais je ne veux pas te perdre. Tu vas pleurer. Tu n'es pas obligé de pleurer. Fais pas semblant de ne pas comprendre. Et il y a une Bible, lis-la, obéis, c'est tout. Ça va se passer très bien. Il veut faire de toi un enfant de lumière. Bon, et alors j'étais là et j'ai dit, Seigneur, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai fait mes années, il m'a formé et je suis allé à mon avis, avec l'accord de mon pasteur. J'ai été décoré par le ministre pour mes états de service. J'ai vécu des tas de choses formidables. Donc j'étais dire, je me souviens un jour, tiens, un truc formidable. Hein, vous savez que toute la Bible est vraie. Vous savez qu'il vous a dit qu'un jour, il a dit à Paul, et c'est pareil pour vous, qu'un jour, vous serez témoin devant des juges et des rois. Vous êtes d'accord? Amen. Qui est-ce qui lève le bras qui dit amen? Fais gaffe, attention, le Seigneur le voit. Bon, dépêchez-vous, il ne reste pas beaucoup de rois. Mais là, on reste. Un jour, mon patron, M. Piguilhem, qui a monté les perches Piguilhem pour ce cours montagne, m'appelle et il me dit, écoute, demain, il y a une mission spéciale, on a pensé à toi, c'est toi qui vas t'en occuper. Il y a la reine d'Iran, Farah Diba, qui vient à Genève. Les Américains l'avaient exfiltrée aux États-Unis parce que le chat et tout ça, Khomeini, elle allait rapidement, 20 cm de sa grandeur. Ils l'ont sortie, elle était là-bas. Et demain, elle vient voir ses enfants, c'est un secret, hein, qui sont à l'université à Genève. Tout le monde va faire du ski à Val d'Isère. On ne veut pas qu'un attentat, ni sur l'autoroute, qu'elle se prenne deux balles par un dingo, ni sur les pistes de ski. Donc demain, tu es le garde du corps. Et donc tu vas skier à côté d'elle. Tu as cette arme automatique dans ton sac à dos, etc. etc. Et il ne faut pas qu'il arrive quelque chose. Point final. D'accord? Bien compris, ok. Donc je prends tous les renseignements. Des factions de police l'accompagnaient sur autoroute pour pas qu'il y ait un attentat sur autoroute. On me livrait le colis à Val d'Isère, je la prenais. Très jolie femme, effectivement, très, très grande, très bien. Et vraiment, je vous assure, c'était pas marqué sur ta tête qu'elle était reine. Mais quand Dieu dit qu'il donne des reines et des rois, ils ont quelque chose de spécial. Il y avait le chef des général en chef des armées qui s'était exfiltré avec elle, une espèce de barbu, un costaud, une baraque. Il faisait du ski aussi. Et moi, je skiais avec eux. Donc, je devais être à côté d'eux. J'assistais à toutes les conversations. Je ne les lâchais pas des yeux. Il ne fallait pas qu'il arrive un truc. Des vrais riches. Vous savez que le chat d'Iran, à chaque fois, il montait une fois par an sur une balance. On lui mettait en diamant, assis sur un trône, son poids et tout ça. Vraiment pas, pas fin de mois difficile, hein, c'était vraiment bien. Et donc, je devais suivre partout. Alors, il faisait deux pistes de ski, ce qui est très bien. Hein. Et puis, elle disait, oh, un petit break, un petit break. On disait, un petit break, on rentrait dans un restaurant, on faisait ça, tout le monde dégageait, tout le monde savait dans Val-d'Isère qu'elle était là. Et on avait le restaurant pour nous tout seuls. Prendriez bien quelque chose? Alors, moi, je suis obligé de me soumettre aux autorités. Ben oui, hein. Purée, des gâteaux au chantilly. Je me suis gavé de gâteaux au chantilly. J'étais vraiment. Hein. Et toute la journée, j'étais là. J'avais prié pour elle, Seigneur, que je puisse lui témoigner ou quoi que ce soit. J'étais déjà chrétien. Hein. Et bien sûr, tu es en service. Tu n'as pas le droit de parler ni de religion, ni de politique, ni que dalle. Surtout pas une reine, hein, qui n'est pas un incident diplomatique. Tu vois. Et donc, j'étais là. Et alors, j'allais de gâteau au chantilly en gâteau au chantilly. À la fin de la journée, j'avais fait plus de gâteaux que de pistes. Tu vois. Et bref, même l'après-midi, elle voulait faire un petit slalom pour avoir une médaille. Moi, je faisais le slalom. Je pensais au pétard. Tard dans le truc, je regardais derrière tous les sapins, s'il n'y avait pas un Khomeini qui nous allume dans le slalom et tout, tu vois. Et donc j'étais là. Et à la fin, elle me dit. Et puis alors, le diable commence à m'attaquer. Ah oui. T'as vu, Esaü, lui, c'était des lentilles. Toi, pour un gâteau en chantilly, allez, vas-y, mais témoigne si t'es un grand courageux. Il parlait devant moi. Je voyais qu'elle avait un cœur pour son peuple et tout ça. Pour de bon, elle ne trichait pas. C'était du souci pour son peuple. Mais elle avait aussi. C'était du monde, hein. Ça parlait d'occultisme, ça parlait de plein de choses, et moi j'étais là, le diable m'attaquait, alors vas-y, parle de Jésus maintenant, hein. Et je n'osais pas parler. Et à la fin de l'après-midi, on se livre le colis, on est tous sur une place, elle doit partir, on se dit au revoir, et devant mes autorités, devant tout le monde, c'est d'autres policiers qui la prennent en compte, je lui serre la main, et je lui dis, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Elle me regarde comme ça, elle me dit, oui. Purée, je voyais les regards de mes chefs, le dingue, ils savaient que j'étais chrétien. Qu'est-ce qu'il y a là? Il dit, ben, montez dans ma voiture. T'aurais vu, je regardais par le pare-brise arrière. Ouh, ils avaient l'air en colère. Elle me dit, montez chez moi. Elle m'invite. Elle avait tout le plus grand immeuble, la plus grande tour en plein centre-ville de dernier appartement, c'est à elle. Et pour pas qu'il y ait de risque, l'ascenseur qui arrive dans l'appartement, il y a qu'elle qui peut le prendre en bas, etc. Je monte dans un ascenseur, j'ai mes chaussures de ski, je rentre dans un appartement assez luxueux, on dirait ça comme ça. C'était comme les manteaux de poils afghans, là. Tu sais, les manteaux qu'avaient autrefois les hippies qu'ils avaient. Là. Je marchais avec les chaussures de ski, t'aurais dit, je marchais sur un tapis volant. Ça. Elle me dit, asseyez-vous là. Je m'assois là sur une table, il y avait des maîtres d'hôtel, petit four et tout ça, oui. Hein. Il y avait la photo du chat qui était là. Hein. Elle me dit, je vais me faire une petite toilette. Je dis, oui, bien sûr. Elle va se faire une petite toilette. Je ne te dis pas, une heure et demie après, j'étais toujours au petit four, bonjour la petite toilette. Tu vois. Elle revient, elle avait dû prendre un bain ou je ne sais pas quoi, ça ne me regarde pas. Elle revient, super robe, classe et tout, c'était plus la skieuse. Hein. Et elle me dit, alors, je vous écoute. Et je lui dis, ben, écoute, vous me connaissez, je commence à Genèse, je termine l'Apocalypse, je raconte tout mon témoignage. Elle m'écoute avec la main, elle me dit, mais c'est formidable ce que vous me dites là. Venez, nous allons passer dans un petit salon. Il y avait le général, le barbu qui était là. Je vais dans un petit salon à côté. Elle m'écoute jusqu'au bout. Je prie pour elle. Je prie avec elle et le général en chef des armées. Et elle me dit, c'est formidable. J'ai toujours été impressionné par des gens de foi, mais avec beaucoup de respect. Elle me dit, partez pas comme ça. Je vais vous faire un petit cadeau. Elle part vite dans sa chambre, elle revient. Elle m'offre un stylo encre en arc de Chine et en or massif Dupont. Frappé aux couronnes royales de la reine qu'elle était en or, et elle me donne ça, elle me dit, écoutez, et moi j'avais que ça dans ma poche, je lui donne j'avais dans mon agenda une carte postale d'église, mais elle était de Paris, c'était Jules Taubois à Paris, l'église du Point du Jour pour ceux qui connaissent. J'ai écouté, j'avais appris qu'elle devait passer quelques heures à Paris. En fait, sa mère habitait dans le 8e. Avant de repartir à Washington, les policiers l'ont ramenée à Paris. J'ai écouté, si vous avez l'occasion, ou si même vous n'avez pas l'occasion, ce n'est pas grave, rentrez à Washington, ouvre un annuaire, il doit y avoir des églises évangéliques. Cherchez à savoir ce que je vous ai dit. Elle m'a dit que oui, elle m'a promis. Je ne l'ai plus jamais revue de ma vie. Et elle est partie. Le lendemain matin, j'ai donné cette carte quand même. Le lendemain matin, c'était un début de semaine. Les flics qui sont venus la chercher sont venus faire là où on habitait, tous les policiers, le plein des bagnoles et tout ça. Et j'ai dit, c'est vous qui la ramenez? Ouais, elle me dit, vous la ramenez où? Elle me dit, ils sont déjà partis ce matin avec elle. En fait, il la pose à Paris, 72 heures, chez sa mère. Les jours où elle était, l'église de Jules Taubois fonctionnait. J'ai fait ma part, tu feras la tienne. Tu n'es pas responsable de la récolte. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il mettra des rois, des reines sur ton chemin, même dans le cadre de ton travail. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, l'apôtre célèbre ou le dernier prophète à la mode. Hein. Non, non, non. Sois toi-même dans ton travail, il est capable de faire passer n'importe qui sur ton chemin. Amen. Allez, trois histoires. Vous n'êtes pas trop fatigués? Si, on arrête? Non? On continue un peu? Trois histoires. Un jour, je sors de la police nationale. Ils veulent faire de moi un officier de police. Mon commissaire de police, mais il ne m'aimait pas bien, c'est un rosicrucien célèbre à Grenoble, mais il écoutait mes émissions de radio sur Radio Certitude à Grenoble, et il me disait toujours, Martinez, je ferai de vous mon apôtre. Ouh, quand j'entendais ça, je tremblais, je disais non. Un jour, il me dit, il m'appelle dans son bureau, on a besoin d'hommes solides, je vous envoie à l'école d'officiers de police à Nice, on se partage le pays, les Pyrénées, les Alpes et tout ça, en 8 portions, vous prenez un truc. Moi, ça me dit, écoute, réfléchis, mais ce n'est pas ça pour toi. Je dis d'accord. Dans les jours qui arrivent, arrive un gros secours. Je suis appelé, je suis en poste à la Bérard, dans Noisan. L'équipe nationale tchèque d'alpinisme se crache, ils perdent leur sac de hissage. Dans la voie, pour ceux qui font de l'alpinisme, la voie des plaques, la face tendelle froide, eux déçus, 1100 mètres de dénivelé, pente de glace, un truc de furieux, grave. Dans ces deux pentes de glace, à 75 degrés, de 200-300 mètres, au milieu, un mur de 300 mètres un peu surplombant. Dans le mur surplombant, ils perdent le sac de hissage avec tout le matériel dedans. Ils se retrouvent en slip, quoi, au relais, tu ne peux plus bouger, hein, t'es cuit, hein, t'es mort. Et les gars, à 9h du soir, moi je dois rentrer le lendemain, on fait l'alternance avec les gendarmes, 8 jours, un coup de fil, les gars, c'est pour vous, personne ne veut faire ce genre de secours, hein, parce que tu sais qui c'est qui va partir, mais tu ne sais pas qui c'est qui va revenir. Hein. Et ils nous donnent le meilleur pilote d'hélico, Frébo, celui qui a sauvé deux maisons au Grand Jorasse, etc., etc. Et la fête commence. On m'appelle, on dit voilà, demain, c'est toi le chef d'équipe. J'ai 7 ou 8 gars avec moi, il faut que j'étudie le truc, comment on va faire, il faut les en sortir tout le monde vivant, et les secouristes aussi. Et alors tout le monde évacue sa peur comme il peut, je vais prier, le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas, laisse-moi faire, ne t'inquiète pas. D'accord. Les autres, ils vont au bar, chacun s'imbibe de bière ou n'importe quoi, parce qu'il faut évacuer son stress et sa trouille. Bon, c'est des non-croyants. Ils savaient que j'étais chrétien, je témoignais. Hein. Et puis, le lendemain matin, avec Frébo, je pars à 7h du matin. Alors, lui, c'est un foldingue grave. Hein. Lui, il faisait même des loopings avec l'hélico. Il fallait voir le zouave que c'était. Hein. Je monte à l'hélico, il m'emmène, on regarde. Puis encore, ils auraient été dans la pente de glace. Facile, à la pêche à la ligne, tu les sors, terminé. Ils montent à l'hélico, tu les ramènes. Mais là, ils sont dans le truc surplombant. Oh, comment on va les atteindre? Moi, bien sûr, je parle tchèque quand je suis très en colère après Brigitte, mais c'est rare, elle est très gentille. Hein. Mais je ne parle pas tchèque et ils ne parlent pas bien français. On n'a pas de radio. Enfin, bonjour les dégâts. Comment on va aller là-bas dessous pour les sortir? Et puis ils sont 5 ou 6. Ils seraient un. Bon, ça va, mais 5 ou 6. Comment je vais en sortir 5 ou 6? Qu'est-ce qu'on fait? Le pilote, il est là, il surveille. On est tous en train de flipper toute la tension nerveuse de la journée. Parce que si les pales, elles te touchent la glace, il n'y a pas de siège éjectable dans un hélico. Il n'y a pas de parachute. Hein. C'est tout le monde tapis, quoi. Et voilà, oh là, tout le monde surveille. Et puis, il n'y a pas d'équilibre statique. Quand tu vois l'hélico au ciel qui est fixe, c'est pas vrai, il n'est pas jamais fixe, il est comme ça en permanence. C'est comme la vie chrétienne. Tu n'as pas d'équilibre statique. Si tu arrêtes de bouger, tu tombes, tu es mort. Tu me suis toujours là? Tu es en perpétuel mouvement. Le Seigneur veut que tu te bouges à chaque instant. Et donc, je suis là, et il me dit, bon, je vais te descendre sur cette arête de neige. Il fallait faire déjà un relais. Il me descend à 7h du matin, au bout du câble, et en plein cas, il faut aller chercher les autres, un par un, tu vois. Je me retrouve à 7h du matin, à 700 mètres du sol, en solo intégral. Ça vaut une tasse de café pour se réveiller, je ne te dis pas. Pendu sur les piolets. T'as pas intérêt à faire un fou mouvement ou quoi. Parce que là, souci pour toi. Je plante des broches à glace, je commence à faire le premier relais, etc. Et les paquets vont arriver. Une journée de bagarre noire. Je tire des cordes fixes sur une pente de glace très longue. Je vais les sortir par là, par les proies en rocher qu'il y a. Des pierres tombent, on se fait bousiller, les appareils radio et tout ça. Mais il faut voir, j'avais pris, ça m'avait dit, tu reviens, toi et toute ton équipe. À 5h du soir, ils avaient déjà alerté les caméras d'antenne, les camions d'antenne de tout le monde monté de Paris, ça allait être le secours du siècle. Il fallait au moins une semaine pour les sortir vivants de là. Je me bats comme un lion, c'était le Seigneur. Enfin bref, on les sort vivants le soir, un par un. Je ramène tout le monde à la maison. On était tellement sous la tension que je me souviens, je me suis assis dans l'hélico avec le vide. L'hélico, il est parti comme ça, porte ouverte. Heureusement, je suis bien assis. Je suis arrivé en bas, on était tellement épuisés que c'est d'autres qui font la procédure par écrit. Et nous, on rentrait. Les gars m'avaient vu. Tout, il m'a dit, personne ne voulait grimper en tête. Il m'avait dit, là, pour la première fois, il m'a dit, mais comment tu as fait hein? J'ai pu témoigner à beaucoup, dont certains ont quitté la police nationale, qui sont actuellement, qui ont fait une école biblique, qui sont pasteurs à Briançon, etc., etc. Le Seigneur te protégera dans tout ce que tu feras. Il marche devant toi. C'est lui le guide, ce n'est pas toi. Et tous sont sortis vivants. Mais suite à ça, tout le monde arrive. Le ministre, etc., tu dois être décoré, machin, tout ça. Je me retrouve à Grenoble, dans une grande salle. Le ministre, Pierre Jox, arrive. Je vais être décoré de je ne sais plus quoi, courage et dévouement, bref. Alors, il y a le préfet, c'est le samedi. Il y a le préfet, il y a tout le monde, je suis en tenue, tu vois. Et puis je suis très amoureux de Jésus à ce moment-là, tu vois. Moi, je m'en fous de tout ce cinéma, enfin, c'est pas grave, je dois obéir. Alors je suis là, regarde à vous. Hein. Et ça commence dans une grande salle, à 5 heures du soir. Je vois un gros puma militaire qui arrive de Paris, il se met sur le terrain de foot devant la CRS, hein. Sort le grand Pierre Joc, c'était une grande asperge, très gentille, mais filiforme. Et alors il descend, il y a une nuée de scribes autour de lui, costard cravate, qui est des porte-serviettes, machin, tout ça, et il rentre. Quand un ministre vient dans une salle, comme ça, la police, je ne te dis pas, dès le matin 7 heures, l'adjudant-chef était là, hein, les militaires, oui, ils comprendront. Vite, la moindre tache d'araignée, c'est nickel, ça doit être parfait pour le ministre. Il arrive à 5 heures, enfin. Il rentre dans la salle. J'ai devant moi, allez, 80, 100 bonhommes, pas plus. Il y a le préfet, il y a toutes les huiles, etc. Des industriels que je ne connais pas, etc. Il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. Et puis, et lui, il rentre. Il rentre, il est bien luné, j'en savais rien, parce qu'il marie sa fille le lendemain. Est-ce qu'elle était insupportable, qu'il était content de s'en débarrasser, j'en sais rien. Mais il était très bien luné, très joyeux. Alors il rentre là-dedans, et alors il me dit, j'espère qu'il ne sera pas offensé, le pauvre Pierre-Jacques, en entendant ce message, si un jour il écoute. Et donc, il s'assoit là, et moi je suis au garde-à-vous. Hein, et tu verras que le Seigneur va te parler dans les moments les plus incongrus. Il n'est pas du tout religieux, le Seigneur. Pas du tout. Il s'en fiche de ton costard, ou ton uniforme, ou ton t-shirt quand tu l'adores. Parce qu'il regarde au cœur. Et bref. Et donc, je suis là. Et avec mes deux ou trois de mes camarades, on va être décorés, etc. Et alors, il rentre. Pas que pour moi. Hein. Il rentre. Et puis, il se met autour de la table. C'est quand un ministre est là, personne ne parle. Hein, hein. Il rentre. Et puis, il veut décontracter l'atmosphère. Il dit, ah, il fait chaud ici. Et moi, j'assiste à tout ça. Ça m'est resté gravé. Il fait chaud. Purée, deux ou trois CRS. Vite, il court au frigo. Il capsule de bière. Hein. Il a sa bière fraîche et tout. Ouais, je t'ai dit que ça vaut le coup d'être... d'être ministre, bref, c'est mieux que pasteur. Enfin non, pardon, Seigneur, c'est pas vrai. Et donc, il est pas mal. Et alors, ils sont que des hommes. La pudeur m'interdira de répéter au mot à mot tellement j'aurais honte. Hein. Mais là, je me suis rendu compte, hein, que le moindre petit ministre de l'Évangile, excusez-moi, en taille, je voulais dire, hein, parce que devant Dieu, c'est un géant, il est plus grand que tous ces gens obscurcis que Dieu veut sauver. Là. Un pécheur. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Il emmène tout le monde dans le mur. Là. Et alors, ces gens-là, j'étais estomaqué, commencent à sortir une petite plaisanterie grivoise, imbécile. Un autre, bien sûr, vous savez, les hommes entre eux, peut-être, hein, un autre, pour faire le beau, il va rajouter la TVA. Ça devient de plus en plus grivois, de plus en plus imbécile et immonde. Moi, je suis chrétien. Ceux-là, ils nous gouvernent. C'est là, je me disais, toujours regarde à vous, là, Seigneur. Mais ils n'ont vraiment rien dans le cigare. Oh là là. C'est vraiment des perdus de chez perdus. Quoi. Et voilà, ils étaient contents de leur petit effet, tout ça. Et puis, il y en a un qui ouvre la bouche, enfin, sérieusement. Personne n'y a donné la parole. Oh, le gars, il a dégainé le premier, que ça puisse vous inspirer. Il dit, monsieur le ministre se souviendra de mon terrain. Alors, on est tout ça, on comprend qu'il a dû lui téléphoner, il doit avoir un problème de terrain. C'est le PDG des usines à Libère, les boîtes de conserve, les petits pois, les carottes, machin, tout ça. Et il veut s'agrandir, hein. Et l'autre, pour faire le beau, il vient d'arriver. Il faut montrer comme c'est gratifiant et généreux, tu vois. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Et moi, je vois, et là, à partir de là, le Seigneur commence à me parler. Regarde les scribes à côté. Attendez, quand un ministre parle, c'est minuté. Il y a un cahier de procès-verbal, parole de ministre. Quand je vois comment les chrétiens piétinent la parole de Dieu, quelle inconscience. Parole de ministre. Et puis, même quand il va gicler, c'est archivé dans les sous-sols de l'Élysée. On sait ce que le ministre de l'Intérieur a dit en 1873 à 10h15 du matin. Ah oui, je vous garantis que c'est comme ça. Il a dit, oui, oui, c'est accordé. L'autre, on n'a plus entendu de la soirée. Il pouvait dormir tranquille. Demain matin, il prend le téléphone. Allô, il est où mon terrain et tout? L'autre, il avait gagné le loto, tu vois. Je me suis dit, pas mal. Et ça continue comme ça. Puis le Seigneur me dit, tu as vu les gars? Parce qu'ils notaient tout, même les plaisanteries grivoises. Hein, j'étais un peu scotché. Hein. J'ai regardé. Mais les gars, ils n'ont rien dans le ciboulot. Pourtant, ils avaient costard cravate, ils présentaient bien. On aurait dit des hommes éduqués, tout ça. Oh, j'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, c'est incroyable. Et alors, le Seigneur m'a dit, t'as vu? Tout ça intérieurement, hein, toujours regardez-vous. T'as vu comme c'est important ce qu'il dit, ce ministre, pour eux? J'ai dit, ouais. Hein. Puis le Seigneur m'a dit, et pour toi, c'est important ce que je te dis? Ben oui, Seigneur. Vous voyez, j'étais dans une phase de ma vie où je pensais humblement, parce qu'on est des faux modestes au départ, on n'est pas vraiment humble, que le Seigneur devait, bien sûr, je ne disais pas, j'étais vraiment modeste, que le Seigneur devait, enfin, que mon pasteur devait être quand même assez content d'avoir des zèbres comme moi dans l'église. Bon, j'étais modeste, hein, je me donnais au moins 12 sur 20, tu vois, j'étais pas mal. Je remontais mes chaussettes, je payais ma dîme, j'arrangeais ma cravate, j'étais sympa, je chantais des chansons, des cantiques et tout, alléluia, et je pensais que la vie chrétienne c'était ça, malgré que je n'avais pas tout compris au film. Et le Seigneur me dit, c'est important ce que je te dis? Je dis, ben oui, bien sûr. Et le Seigneur me dit, Tu te souviens ce que je t'ai dit ce matin dans ton culte personnel? Je suis toujours regardé vous. Alors, je me gratte la tête en esprit, bien sûr. Je dis, oui, d'accord, c'est bien. Le Seigneur, il me dit, tu te souviens ce que je t'ai dit hier matin dans ton culte personnel? Hier matin, j'ai réfléchi. Ouais, c'est vrai. Tiens, il me dit, on est au mois de juin. Tu te souviens ce que je t'ai dit le 14 février dernier dans ton culte personnel? Le 14 février? Oui, Seigneur. Puis il s'arrête. Mais ce n'est pas marqué peinture comme ça, là, j'en sais rien, moi. 14 février. Puis j'ai même entendu mon pasteur prêcher là-dessus. Quoi, c'est un péché de ne pas se souvenir, mais je ne suis pas un ordinateur, je fais ce que je peux. Mais il ne me dit plus rien. L'autre, il vient, il m'embrasse, il me félicite même pour des exploits que je n'ai pas fait. Les gars, t'en rajoutes, c'est incroyable. J'ai envie de dire, mais c'est des mensonges, là. Qui c'est qui a écrit ce discours? Mais je n'ai pas fait tout ça, hein, ça. Bref, grosse médaille. De temps en temps, je le mets sur mon pyjama, ça pourrait faire rire ma femme, tu vois. Hein. J'aurais préféré qu'il m'en... Enfin, bref, il m'a donné ça. Hein. Et je pars, je sors, mais j'étais tellement marqué par ce que le Seigneur m'a dit, je vais voir mon pasteur, on en rigole, mais, hein, et je rentre chez moi, et je lui dis, Seigneur, mais. C'est quoi ça? J'avais pas une conviction de péché, je ne savais pas. Je dis, Seigneur, j'ai mal fait quoi? Je ne peux pas m'en souvenir. Et là, le Saint-Esprit commence à parler. Écoute-moi, tu vas te prendre un cahier avec un stylo rouge et noir. Si vous prenez un vert et un violet, ce n'est pas un péché. Hein, tu vas commencer à écouter ma voix chaque matin. Tu vas commencer la journée comme ça. En noir, en rouge, tu vas marquer tout ce que je te dis. Alors j'ai cru qu'il allait me parler des péchés des autres. Attendez-vous bien, pendant des années, il m'a parlé que des miens déjà. Il y en avait, hein, je ne pensais pas, je ne voyais même pas. Ensuite, je notais pour Dieu tout ce qu'il m'arrivait dans la journée, ce qu'il faisait. C'était un rendez-vous, un autel devant l'Éternel. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il veut forger ton oreille. Alors, ça veut dire, attention, c'est de la magie, c'est de l'écriture automatique. C'est pas vrai. Ésaïe, chapitre 44, verset 5. Il est l'alpha et l'oméga. Ce soir, je suis en train de semer dans une bonne terre. Écoute ce que je te dis. Quand j'ai appris à faire du ski, pendant 2 ans, tu skis comme une luge à foin. Pour tout le monde, tu bouffes de la neige et tout. Guignol. Et seulement au bout de 5 ans, tu fais du freeride dans les couloirs ou quoi. Eh bien, la foi, c'est pareil. Tu vas apprendre à écouter comme écoutent les disciples. Saint Paul, tout Saint Paul qu'il est, il a vu Jésus, il est tombé de son cheval dans la tradition, parce que la Bible ne te dit pas qu'il était à cheval. En fait, en français courant, maintenant, il était sur une mobylette. Il est tombé, hein, il a vu, mais il a vu quelque chose, en français très courant. Hein, mais il a été pris quand même par le Seigneur. Il l'a emmené à Damas pour apprendre à écouter comme écoutent les disciples. Tu vas apprendre à écouter la voix de Dieu, sans ça tu ne peux rien faire. Et il va ouvrir ton oreille. Et alors tu vas t'apercevoir, je n'ai pas le temps de faire un séminaire là-dessus ce soir, qu'il y a 3 voix qui peuvent parler dans ce monde. Le diable peut te parler, faites gaffe, Satan peut se déguiser en ange de lumière. Toi tu peux te parler à toi-même, et Dieu peut te parler. Seigneur, mais comment tu veux qu'on y rencontre quelque chose là-dedans? Et Dieu va te donner la clé. Non, attends, Saint-Pierre, arrête de te faire peur. Toi tu n'existes pas, c'est comme les Suisses, la neutralité, c'est pas comme les Suisses, la neutralité n'existe pas. Soit Dieu va te parler, tiens, vas-y vide, soit le diable va te parler. Seigneur, tu es le Christ, loin de Dieu, le choisi de Dieu, celui qui porte l'onction. Tu es heureux, Simon, hein, 2 versets plus tard. À Dieu ne plaise, hein, jamais ça arrivera. T'as vu le canif là, t'as vu l'opinel, je vais te tailler les oreilles en pointe. Effectivement, il a taillé une oreille en pointe, je ne dis pas, il a carrément coupé l'oreille. Jésus, il a dit, tu ne sais pas de quel esprit t'habites, il est arrière de moi, Satan. Ce n'était pas une petite insulte, une injure comme ça. C'était 2 esprits différents en 10 minutes d'intervalle, d'accord, t'as compris? Tu n'es pas toi. Soit il va rentrer en toi et tu dois faire gaffe à toi-même. Tu es son temple. Ne laisse pas accès aux malins. Ne pêche pas une église réveillée. Un homme qui est réveillé, une femme qui est sous le réveil. Ce n'est pas une femme qui gagne beaucoup d'âmes ou qui chante ou qui fait beaucoup de CD et des Woodstock chrétiens. C'est du business, ça. C'est du blabla. C'est du mensonge. C'est de la poudre aux yeux. C'est du vent. Hein, quelqu'un qui a le réveil. C'est quelqu'un qui ose marcher. J'ai vu que pendant des années, ça. Peut-être je ne vis plus assez maintenant. Et qui, tu n'oses plus pécher. Tu n'oses plus, tu fais gaffe à tout ce que tu vas faire, mais silencieusement, bien sûr, de peur que sa présence parte. Il a horreur du péché. Il est très saint et il t'aime. Et t'inquiète pas, il ne veut pas tuer parce que tu as péché, c'est de quoi tu es fait, mais il part, il a horreur du péché, il part. Tu te retrouves vide. Si tu n'as plus sa présence, tu n'as rien, tu n'es rien. Et je ne voulais pas perdre sa présence, je ne veux pas qu'il parte. Et donc, de quoi je parlais là déjà? D'Ésaïe 44, exact, merci. Il y en a quand même une qui écoute dans cette salle. Ouais. Ésaïe 44, 5. Regardez. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel. Je n'ai plus besoin de ces cahiers. Je n'avais pas prévu de vous prêcher là-dessus ce soir. Je suis un vieux pasteur, mais j'ai encore du temps. De temps en temps, il me dit, reprends-les. Celui-là, je l'ai commencé le 26 juin 2015. Il m'a parlé, tiens, de tes péchés, ouais, le 1er janvier 2016. Il ne parle pas des péchés de mes frères et sœurs. Il ne parle que de moi, de ma vie. Ça, ça, Là, tu as demandé pardon. Là, tu n'as pas été intègre. Pourquoi tu as rajouté la TVA là? Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et je ne parle pas des maghrébins là. Tu ne peux pas avoir, c'est une expression, tu ne peux pas avoir les miracles et pas la pureté et la sainteté. Mais non. Fais la joie de son cœur, alors tu auras toutes sortes de miracles. Tu auras toutes sortes de miracles. J'ai appris à écouter ce qu'il me dit. Je n'ai plus besoin de ces cahiers maintenant, parce que maintenant, tu vas être dans des situations. Vous savez, j'ai vécu des situations avec ma Brigitte où j'ai appris à être obéissant dans le moindre détail de la parole de Dieu. C'est pas, tu vois, j'ai rien contre les Américains. Il y a de très bons ministères. Un des ministères préférés sur Terre, et il n'est plus sur Terre maintenant, c'est David Wilkerson. Moi, je vous mets à l'aise. Hein. Mais partout, il y a du très bon et il y a du très mauvais. Et certaines tendances américaines, hein, tu vois, du volume, du grand, tout ça. Des fois, ça me fait un peu peur. Alors, on va te dire, tu sais, attention, hein, là, les hommes, ils s'habillaient comme ça, là, les femmes comme ça. Ah oui, mais parce que l'histoire nous raconte, ça, c'est culturel, tu sais, parce qu'autrefois, les prostituées à Corinthe, tout ça, je m'en fous, moi, des prostituées ou pas. Tu n'y étais pas, moi non plus. J'en sais rien si c'est vrai. Mais lui, il me dit, à cause des anges, raison culturelle, pas culturelle, à cause des anges, ils sont toujours là. Je ne discute plus la parole de Dieu. Et si Dieu m'avait dit, écoute, Philippe, tu vas être exaucé, tu vas faire des prières en grimpant au sommet d'un arbre, je passerai pour un fou ou un singe, je serai tout le temps au sommet d'un arbre en train de prier. Je ne discute pas, j'obéis. J'ai fait 13 ans d'armée de police. On ne discute pas les ordres, on obéit. La force principale d'une armée, c'est l'obéissance. À ces chefs d'armée, demain matin, je parlerai là-dessus pour votre futur pasteur, etc. Ce que j'ai pu voir dans les églises d'Occident de déraillement, théorie du relativisme, hein, ou de pouvoir, non, il n'est que le pasteur, non. Oui, tu as le droit d'aller balayer les WC. Vas-y, mon frère, avec beaucoup de respect, je te dis ça. Mais attendez, mais vous savez qui il est? Vous savez qui il est? Qui il sera encore à vos yeux? Demain, je vais vous en parler. Parce que la Bible l'explique. Si vous loupez le coche, vous n'enfanterez rien. Aussi, une petite église de plus, un vêtement blanc, une harpe d'or, voilà. Rien. Miracle zéro, vie transformée zéro. Voilà. C'est ça que vous voulez? Non. Dieu veut autre chose pour vous. Il y a tout un ordre de marche à tenir. Et j'ai commencé à écrire, je n'ai plus besoin de ça. Et des fois, ça m'a sauvé la vie. Un jour, je suis à Alger avec ma chérie. Ça craint pour nous, pas mal. 15 jours après l'assassinat des moines de Tibérine, je me retrouve à 7 dans l'avion. Je pars. Le Seigneur m'a dit, une nuit, lève-toi, tu pars. Il m'avait déjà dit au Tchad, je n'avais pas rêvé. Et je suis dans l'avion. Mon pasteur m'a dit, go, j'y vais. Lui est arrêté au dernier moment. Moi, je pars. On est 7 dans l'avion. Ils sont tellement contents d'avoir un touriste, enfin, là-bas. Je vous assure, en une heure d'avion, Marseillais, ils m'ont servi 2 plateaux de repas. Vraiment, tu mangeais toute la journée. Tellement, ils étaient heureux de fourguer leur plateau de repas dans l'avion. Et je m'étais laissé pousser un peu les moustaches. Je lui ai dit, il faut avoir l'air un peu à l'algérienne. On ne sait jamais, ça peut aider quand même pour survivre. Mais le Seigneur, il n'a pas besoin que tu l'aides. Dès que je suis allé à l'aéroport, j'ai tout de suite compris. Et tout le monde a sorti son petit passeport. Le leur, il était vert. Le mien, il était Bordeaux. Ils ne sont pas daltoniens. Là, ça commence à devenir sévère. Bref, l'histoire a commencé comme ça. Mais un jour, sur deux, j'ai emmené Brigitte. Un jour, on est dans la Casbah. Ça craint. On a été félicité par une lettre de l'Assemblée nationale. Ils savaient qu'on était là-bas dedans. Et avec Brigitte, on s'occupait des petits-enfants. On a filmé tout ça. On s'occupait des petits-enfants, etc., etc. Et puis, on se retrouve à la sortie d'une mosquée. Purée, surtout des gros barbus. Les femmes ne sortent pas dans la mosquée. Il n'y a que des hommes. En djellaba blanche. Purée, ils n'avaient pas l'air très évangéliques, tu vois. Hein. On voit tout de suite que tu n'es pas évangélique. Hein. Brigitte, elle a son voile toujours dans sa poche. C'est une femme de prière. C'est ma conviction et la sienne. Je suis responsable que de ma femme, pas de la femme. Elle s'est mis tout de suite le voile sur la tête. On a marché. Je ne dis pas qu'ils t'auraient coupé la gorge en plein jour comme ça. Quoi, j'en suis pas sûr. Ils l'ont fait pour d'autres. Hein. Mais qu'elle se prenne vite fait une estafilade et un coup de rasoir dans la figure et pour être marquée à vie, ça, ils étaient capables de le faire. J'ai jamais autant prié en langue. La Bible, elle parle aussi, pour ceux qui seraient contre, soyez remplis du Saint-Esprit. Quand ça va mal, comment ça va? Purée, j'ai jamais autant prié en langue. On a remonté toute la rue avec Brigitte, au moins 200 mètres. On était entouré de ces malabars. Hein. J'ai jamais autant prié en langue. Oh là là là, ils devaient penser que je parlais français, ils ne comprennent rien au français. Et moi, je ne comprends rien à l'arabe à ce moment-là. On est toujours là. Aucun d'entre nous n'a été touché, même pas nos enfants. Il est l'Éternel qui te protège. Il est ton refuge. Il est ta haute protection. Il est ton refuge. Il est ta retraite. Et moi, j'ai cette foi d'enfant qui rajoute. Il est non seulement ta retraite, mais il est ta sécurité sociale et ta mutuelle. Ah non, mais je ne plaisante pas. Il faut le prendre au mot à mot. Un jour, je suis en train d'ouvrir une église quelque part et j'ai des problèmes graves. Et mon pasteur m'appelle, il me dit, il y avait un gars là qui pouvait nous faire des histoires. On avait signé les papiers administrativement, des histoires graves, une histoire d'héritage. Et alors, je lis ma Bible ce matin-là. Et mon pasteur me téléphone, il me dit, tu sais que là, on risque d'avoir des soucis et tout ça. J'ai dit, ouais. Et puis, je lis ma Bible, je prie. Et puis, le Seigneur me dit, je tombe sur ce verset, un réma. Il ne permettra pas que ton pied ne heurte contre une pierre. Le gars, il s'appelle Pierre. Super, Seigneur. Le pasteur me téléphone, il me dit, tu sais qu'on a rendez-vous, tu es prêt là, ça va aller, tu vois. Je dis, ouais. Et il me dit, tu crains rien? Je dis, non, Pierre, c'est réglé ça. Il dit, ouais, pourquoi? Il me dit, le Seigneur m'a parlé ce matin, ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il ne permettra pas que notre pied ne heurte contre une pierre. Il s'appelait Pierre. Tu dis, bien, on a gagné le match et tout. Puis Truchet, il a raccroché le téléphone, il a dit, il doit être vraiment fou ce gars. On m'a marché par la foi, marché par ce qu'il te dit, avoir confiance dans ce qu'il te dit. Allez, je finis. Vous êtes un peu fatigué. J'ai tellement de choses que je voudrais vous raconter. Un jour, je quitte tout, je pars. Il me reste 5 francs. Vous connaissez ma petite histoire des pièces de 5 francs? Vous pouvez les faire passer? C'est ça une pièce de 5 francs, pour les plus jeunes qui ne savent pas. Attention, je fouille tout le monde à la sortie. Elles reviennent, s'il vous plaît. C'est ça, je vais vous expliquer l'histoire des pièces de 5 francs. Un jour, il me dit, allez, tu sors de la police nationale, maintenant tu me sers, etc. etc. Je suis sorti, j'ai signé ma lettre de démission. Ils ont cherché 3 jours. Il n'y avait personne qui avait mon poste. J'étais un des 8 professeurs guides du secours en montagne en France. Si je vous dis le salaire que je touchais, puis surtout les jours de repos compensateurs que j'avais par an. Voilà. Plus de la moitié de l'année, j'étais en repos à la maison. Avec un bon salaire, croyez-moi. Quand tout va mal dans un pays, le pays se met toujours 2 catégories de gens dans la poche. Tous les pays du monde. L'armée et la police. Tu sais comment on se met l'armée et la police dans la poche? Avec ça, c'est tout. Les privés font des grèves, toi ton salaire est augmenté tous les mois chaque fois qu'ils font une grève. Ça se passe comme ça. Et donc, pour poser sa démission, il faut être fada. Hein, parce que tu sors de la police nationale, tu ne peux plus revenir. Ils ont peur qu'il y ait des contacts avec les mafias et tout ça, les réseaux radio et tout. Enfin bref, c'est catalogué. Et donc, je savais que j'ai signé une sortie définitive. Et je sors là, le commissaire en question, le Rosicrucien, il me dit, mais non, il avait tout préparé. Vous ne sortirez pas, Martinez, hein, il ne voulait pas. Hein. Et puis, un jour même, il m'a appelé dans son bureau. C'est vrai, hein. Il me sort, c'est un commissaire célèbre, mais ce n'est pas du tout incroyant. Il m'ouvre son tiroir, il me dit, approchez. Il m'ouvre son tiroir de bureau, je m'approche, il me dit, regardez. Il avait ouvert un nouveau testament, il me dit, regardez, mais même moi, je fais une petite rédaction là sur Paul et tout. Oh, le diable, il va te la jouer, malheur comme il faut. Dieu m'avait dit, tu sors. Il m'a dit, non, écoutez-moi. Vous allez poser un congé sans solde. Alors, il se parlait lui-même à haute voix devant moi. Hein. Bon, il va sortir, il va se ramasser. Ensuite, il va venir pleurer pour qu'on le reprenne, etc. Oh, je dis, tu sais, le livre de la jungle. Et confiance. Oh là là. Et puis, j'ai dit, je sors. Il me dit, pourquoi vous sortez? Il m'a dit de sortir. Si je pose un congé sans solde, j'ai l'impression que c'est un peu le poker menteur. Je garde une carte dans la manche au cas où belote et rebelote et 10 de der et je suis bon. S'il te dit de sauter dans la piscine, il ne te demande pas que tu prennes ta petite bouée. C'est lui ta sécurité. Tu sais, en forme de canard. Et hop, je saute avec Jésus. Je marche sur l'eau. Mais tu ne marches pas là. Tu es en train d'être flotté par ta bouée. Tu donnes tout ou rien. J'ai dit, je sors. Je me retrouve au bout de 72 heures, dehors. J'ai dit, mais Seigneur, mais je vais vivre comment? Je vais vivre sous les ponts. Mais comment je vais payer mon... Tu sais, dans un monde bien calculé. J'ai compris tout ça pendant 6 mois que j'ai préparé ma sortie. Tu travailles aujourd'hui pour payer les impôts de l'année dernière. Et l'année prochaine, si tu sors maintenant, mais comment tu vas payer les impôts de cette année? Ficelé jusqu'au bout. Tu ne peux pas sortir. Et là, petit à petit, il m'a dit, comme ça, mon cœur. Tu vois, les portes vont s'ouvrir comme ça. Et on est, je peux sortir, je n'ai pas d'aide. Mon pasteur me prend, il me donne une petite chambre au-dessus de l'église, il me dit, voilà, tu vas, pendant 2 ans, 3 ans, j'étais le gardien du temple et je sortais les poubelles voilà, de l'église. Et j'ai vécu là pendant 2 ans. Je sors un matin, quand je suis sorti le premier jour de chez moi, et puis il me reste 5 francs dans la poche. 5 francs. 5 francs, ça n'a pas tout à fait 1 euro au jour d'aujourd'hui. Mais à l'époque, je pouvais faire plein de choses. Alors, j'ai mon frère qui s'appelle Clément Guéret-Kozumbo, un Africain avec qui, un pasteur formidable en Centrafrique, peut-être vous le connaissez, avec qui on s'est élevé ensemble, un formicien. Et je veux lui écrire, lui, il connaît déjà un réveil à tout casser au Centrafrique, il prie avec le président de la République, il faut voir les centaines de baptêmes toutes les semaines, enfin bref, un vrai réveil. Et je vais lui dire, ben, Clément, maintenant, prie pour moi. Je vais partir. Alors, je pars avec ces 5 francs. J'ai aidé de monter à Trémy, dans le Trièvre, pour ceux qui connaissent, parce que Truchel a une colonie de vacances là. Et je vais jeûner 3 jours, parce que je me dis, ben, quand tu ne sais pas quoi faire, ben, il est dit de Paul ben, qu'il a cherché la face de Dieu 3 jours. Et là, peut-être, j'aurai des directions de Dieu. Alors, je prends un petit sac de voyage. Une famille italienne m'avait accueilli pour une nuit. J'avais rendu mon appartement, je n'avais plus rien. Et Truchel n'avait pas donné ma chambre au-dessus de l'église. Et puis, je mets 2 chaussettes dedans. de t-shirt, ouais, c'est l'été, c'est le mois de juillet, début juillet 1985. Et puis, j'ai une pièce de 5 francs parce que j'ai combiné que quand je vais arriver à Trémini, je vais aller au bar tabac, je vais acheter un timbre à 3 francs 60 pour aller aux Antilles et je commence ma vie avec 1 franc 40, pas de problème. Alors, je lis tout est puissant, je suis heureux, je sors ce matin-là, je suis à Briey-en-Gonne sous Champs-Rousses, je vais à pied, je vais passer par Grand Place pour rejoindre l'U2, l'Estacade et aller sur Trièves. C'est une autoroute qui vient d'ouvrir tout neuf. Et puis, je marche et puis je suis heureux. Maintenant, je vis pour Jésus et je lui dis, tu sais, Seigneur Jésus, maintenant je ferai toujours ce que tu veux. Mais il faut faire gaffe quand tu vas dire des trucs pareils. Parce qu'il entend, il est content, enfin, hein, à la chaude fond, qu'il va faire tout ce que je veux. Alléluia. Et ben, je te dis pas ce que tu veux. Tu vas voir ce que tu vas voir. Mais ça vaut le coup quand même. Et alors moi, je dis ça comme ça. Tu sais, quand on est amoureux, on dit des tas de trucs. Ah oui, non, mais attends, c'est ce qui est dit, dit. Et alors, pour lui, ce qui est dit, dit. Si tu ne veux pas, tu es un menteur. Et alors, ok, pas de problème. J'arrive devant Grand Place. À ce moment-là, il y avait une espèce de zouave, Cochescu, avec sa Jézabel de femme, je ne te dis pas, qui te mitraille tout le monde. Enfin, tous les Roumains, ils se sauvaient, c'était le sauf qui peut. Tu en avais plein Grenoble, tu les reconnaissais. Ils avaient une petite veste sans feutre, le col ouvert. Ils dormaient sous les lampadaires, dans les bagnoles et tout ça. Et ils se faisaient mitrailler là-bas en Roumanie, je ne te dis pas. Donc, ils étaient tous là. J'arrive à un feu rouge, je me dirige vers l'Estacade, vers l'autoroute. Et un Roumain, à 8 h du matin, il passe devant moi et il me fait avancer, il me dit, t'as pas 100 balles. En roumain, en langage international. Alors moi, ça tombe bien, je suis aussi pauvre que lui, j'ai tout donné, j'ai vendu, j'ai tout donné aux pauvres, je démarre à zéro exprès. Et comme c'est écrit dans le bouquin, vends tout ce que tu possèdes, ben, j'appliquais à la lettre. Et c'est pas mon pasteur qui m'avait dit de faire ça, hein, je faisais mes expériences. Et puis le gars me dit, t'as pas 100 balles. Ah non, alors moi j'explique, je pose le sac, j'explique en langage international, non, Walou, moi aussi, que dalle, fauché comme toi. Hein, hein. Et là, le Seigneur me dit, oh, stop, ah non. Attends, okay, je rêve, ça me parle. Tu peux pas dire ça. Tu as 5 fois. Je dis, attends, bon, c'est vraiment un Dieu démesuré. Tu sais, là, des fois, je suis obligé d'expliquer, je suis encore jeune. Non, mais attends, Seigneur, j'ai que 5 francs. Mais j'ai déjà appris une chose. C'est que Dieu, il parle toujours que deux fois. Parce qu'il t'a fait deux oreilles. Un coup, il va te parler dans cette oreille-là. Hein. Un coup, tu n'entends pas. Il va te parler dans celle-là. Tu n'entends pas. Allez, bille sur le front, allez, un vêtement blanc, une harpe d'or. Il va parler dans les oreilles de celui-là. Et la différence entre celui qui fait des miracles et celui qui n'en vit pas, c'est parce que lui, il obéit sans discuter. Surtout quand ça va lui coûter. 5 francs, mais j'ai que ces 5 francs. Mais je voyais qu'il ne répondait même pas. Alors, dans un geste de foi remarquable, j'ouvre mon sac, je fouille dans les chaussettes, je trouve les 5 francs. Je donne les 5 francs aux Roumains. D'un seul coup, il est converti. Il se signe, il remercie la bonne mère et tous les saints. Et ciao, il se barre avec mes 5 balles. Et je me retrouve dans la rue, nu comme un ver, rien. Je démarre avec 0, plus 0 égale 0. Bon, je me dis quand même, je suis un ancien scout. Après une BA comme ça, le bon Dieu, il est obligé de me bénir. Et enfin, j'essaie de me rassurer comme je peux, quoi. Alors, je pars en autoroute. Je me mets là-haut en autoroute. C'est 8 h du matin. Je suis célèbre quand même à Grenoble. Je veux pas qu'on me voit faire du stop. Pour moi, j'étais encore un policier, un autostoppeur. C'est un SDF, tu vois. J'avais une belle bagnole. J'avais tout vendu pour partir. Et puis, j'avais un 4x4 et tout. J'avais tout vendu. Je démarrais. J'avais rien. Mes godasses et la foi. Et puis, je lis toutes les puissances anti-autostop. Tu sais, on connaît tout le combat évangélique. La première bagnole, elle passe. Tiens, elle t'enrhume. La première, elle ne prend jamais. Je relis toutes les puissances. Et comment ça passait ? Comment ça passait, première ? 8 h, 8 h 30. 9 h, ils vont tous au boulot. Grenoble. Il y a tout Grenoble qui passe là. Mon patron qui m'avait dit la veille, Martinez, vous finirez comme un SDF. SDF. Remarquez que j'ai appris une chose. Le pire, ce n'est pas les SDF, les sans-domicile. Vous savez ce que c'est le pire ? C'est les SEF, les sans-église fixe. Alors ça c'est terrible. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et donc, il passe. Oh, il a fait semblant de ne pas me voir, il tourne la tête. Mais passe mes voisins, c'est grand Grenoble. Mes voisins d'immeubles, tu sais, il y en a toujours, ils t'appellent le moine, le curé, machin, tout ça. Ils ne sont pas très convertis encore, tu vois. Hein, il passe. Il n'y a personne qui te prend. Ça démarre mal le ministère. Je voulais envahir l'Afrique, j'arrive même pas à sortir de Grenoble. Je dis pas. 10 h, je suis toujours là. Seigneur, il y a malaise. 11 h, je suis toujours là. Il y a tout Grenoble qui est passé. Midi moins le quart, je suis toujours là, dans la chambre que je vais craquer. Arrête une Fiat Uno, une petite Punta de rien du tout, grise. Un espèce de Pink Floyd. Tu aurais vu la crête violette et tout à l'époque. Il s'arrête, il ouvre la tête. Hey, gars, tu montes. Hey, gars, c'est comme ça que tu me parles. Encore la veille, je t'arrêtais, je te mettais des menottes. Tu es en taule. Tu montes. Mais enfin, des fois, il vaut mieux perdre la face que perdre la vie, tu vois. C'est bon. Je monte. Il me dit. Tu vas où ? Je vais à Trémini. Il me dit, moi, je vais pas loin, je vais à 1 km, je vais chez ma mère, manger avec ma mère. À Pontrier, j'ai dit, bon, le principal, c'est de commencer dans la vie. Hein, je monte et on part. 1 km après, il m'arrête. Je suis en plein cagnard là, un autoroute tout neuf. C'est du goudron, du sable blanc. Il vient d'ouvrir. Il n'y a même pas de rambarde, le champ vert, et moi tout seul. Les gens n'ont pas l'habitude de passer par là. Je les vois à travers champs, loin, vers Pont-de-Clé, l'école d'escalade. Ils passent sur la route nationale. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je cours à travers champs. Non, j'en ai marre. Je ne vais pas courir, il fait chaud, c'est juillet. Je vais faire une réunion de prière, de louange et d'adoration. Alléluia. J'ai tout le temps. Maintenant, je suis pour Jésus. Je pose mon sac. Il y a du sable blanc là. Je marche sur le sable. Il y a le goudron qui est là. Bon, j'ai quand même les yeux ouverts hein, pour ne pas me faire écraser par une bagnole, évidemment. Tu vois. Alors, je loue le Seigneur. Oh, Jésus, vive toi, bats les autres. Tu sais, quand on est amoureux, on dit n'importe quoi. Alléluia. Hein, je... Et pendant que je marche comme ça, oh purée, devant moi, il y a une pièce de 5 francs. Super, il y a une pièce de 5 francs. Quand ils sont passés à l'euro, un jour, une institutrice m'a dit, attends, un jour, tu raconteras cette histoire, les enfants sauront même plus ce que c'est. Elle m'a ramassé quelques pièces de 5 francs, parce qu'ils perçaient les billets de 500 francs et tout. Vous allez voir, c'est au moins... Une pièce de 5 francs, je la prends. Oh Seigneur, alléluia. Alors tu as remarqué des fois comme c'est facile de rendre grâce. Allez, gloire à Dieu. Oh Seigneur, mais je le savais, t'es le plus grand, t'es le meilleur, tout ça. Je fais 5-6 pas, purée, devant moi, il y a une deuxième pièce de 5 francs. Oh là là, là, je me baisse. Oh Seigneur, oh tu es bon Seigneur, c'est vrai, mon pasteur il avait raison, il disait toujours que tu rendais au double et tout. Alléluia. Je suis à 5-6 mètres de mon sac. Je fais quelques pas. Purée, devant moi, il y a une troisième pièce de 5 francs. Qu'est-ce que vous auriez fait? Ben, j'ai fait pareil que vous. Tu vois, j'ai commencé à regarder. Peut-être quelqu'un a perdu son portefeuille. Il y a peut-être quelques petits billets de 200 francs. J'en sais rien, moi. Il n'y avait pas une boîte de coca. Il n'y a pas un papier de charcuterie. Il n'y a rien. C'est propre, nickel. Purée, c'est en plein soleil. Écoutez-moi bien. Je suis un sportif de haut niveau. Ni je me pique, ni rien. Vous le savez. Hein. Je ne suis pas sous une insolation. Je suis tout seul. Purée, je me baisse pour prendre la pièce de 5 francs. Au moment où je me baisse, je vous dis que je l'ai vécu comme ça. Je vais vous dire par intégrité ce que j'ai vécu ce soir. Je vous dis, je ne me fais pas cette idée de Dieu. D'abord, je ne me fais aucune idée de Dieu. Il peut avoir la représentation qu'il veut. J'en sais rien. Il est esprit. Mais à ce moment-là, je vous dis, je n'ai jamais pensé à ça. Je me baisse. Je suis un peu comme en état de choc. J'ai la peur s'empare de moi. Je veux retourner à mon sac à dos. Je me baisse. Au moment où je me baisse pour la ramasser, il y a un vieillard qui rit aux éclats dans ma poitrine. Il rit. C'est comme un grand-père. Il rit. Il rit, il veut jouer avec toi, il veut faire plein de choses avec toi. C'est toi aimé, je ne te dis pas sans toi aimé. Sache que tu es très aimé, tu es quelqu'un de valeur à ses yeux. Il veut faire plein de choses avec toi. C'est ta confiance, il est ton père. Il va t'emmener faire des trucs complètement dingues. Tu es très aimé, vous ne savez pas à quel point vous êtes aimé. Alors vous êtes en train de vous dire oui, c'est parce que oui, mais moi j'ai péché, s'il savait tout ce que j'ai fait, ben, si tu savais tout ce que j'ai fait. Hein. Mais non, mais toi, tu habites, il a été fait pour toi, rédemption et sanctification. Il est ta justice, il est ta justice. Dieu a des lunettes de glacier, comme moi, le guide. Le verre, il est rose. À chaque fois que le diable t'accuse, Dieu tourne la tête, il dit, mais non, vilain Satan, qu'est-ce que tu racontes? Il est tout rouge, il est purifié par le sang de Jésus. Asperge-toi tous les matins, mets-toi comme le souverain sacrificateur. Il faisait d'abord des sacrifices pour ses propres offrandes. Tu habitais sa justice. Mais le Seigneur a permis une chose qui trouble les enfants de Dieu. Et je vois beaucoup d'églises complètement affaissées. Regardez Marie de Magdala, type de l'église qui se convertit. Hein. Elle verse son vase de parfum devant l'Éternel. Attendez, mais sept démons ont été chassés. Peut-être qu'il y avait des démons de prostitution et tout. T'en sais rien. D'accord ? Et puis quelque part, tu as des fois l'église au bout de 10-15 ans, les chrétiens. Bien sûr, ils aiment toujours Jésus, mais tu sens qu'ils sont comme affaissés. Quand tu dis, mais de quoi ça vient ? De quoi ça vient ? De quoi ça vient ? Je vais vous expliquer de quoi ça vient ce soir. Même si ce n'est pas le sujet. C'est comme la femme adultère. Pour faire un adultère, il fallait deux. Jésus l'appelle. Il dit. Que celui d'entre vous qui a jamais péché jette la première pierre. Ensuite, quand il se retourne vers elle, il dit, bon, tu as eu de la chance, hein, moi aussi je fais partie du MLF israélien. Hein. Il dit pas ça. Hein. Femme, quelqu'un t'a-t-il condamné? Je te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Il juge l'acte, mais il sauve la personne. Mais il n'a permis pour nous, au bout de quelques années, quand on a conscience de péché, que la gomme magique n'efface pas. Tu es pardonné, mais tu as le souvenir de ce que tu as fait, afin que tu prennes garde à toi-même. Et le diable, ça aussi le sait, et la Bible t'en parle très peu. Donc, il a accès sur toi. Ah, tu vois, il va te rappeler tes souvenirs que tu as confessé 10 fois. Mais quand tu as confessé tes péchés, Dieu dit qu'il l'aimait au fond de la mer. Il l'aimait au fond de la mer. Qui sommes-nous pour rappeler à notre femme, à notre mari, à nos enfants leurs péchés, leurs délires d'il y a 10 ans, 15 ans? Mais tu es plus grand que Dieu, toi. Il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Parce que tu vas prendre la Seine-Seine après. Il faut faire très attention. Dieu a choisi de oublier complètement. Dieu veut s'occuper de ton présent et de ton avenir. Et on est là sous un poids de culpabilité inconsciente. Oh, mais je ne suis pas digne. Déjà, il m'accepte dans l'église, c'est déjà pas mal. Hein, mais. Relevez-vous, mettez-vous debout. Vous êtes de grande valeur. Quoi que vous soyez, David est tombé, il a servi après. Hein. C'est clair aussi, Dieu lui a pardonné son péché. Et alors, je ramasse ma troisième pièce de 5 francs Et là, je suis paniqué, j'ai un peu peur, j'ai envie de rire et de pleurer à toute vitesse. Là, je veux retourner à mon sac, je ne sais pas pourquoi, je veux retourner à mon sac, il est là à 10 mètres, je fais demi-tour, je viens de passer par là. Je fais 3-4 pas, purée, quatrième pièce de 5 francs. Alors là, j'ai commencé à chialer, je cherchais, je voulais le voir, je voulais le voir, je n'ai pas vu Dieu, je sais qu'il est là, et toujours ce vieillard qui rit, hein, et j'ai pris cette quatrième pièce de 5 francs, mais j'ai fait un pacte avec Dieu, qui tu seras mon Dieu. Tu seras mon salaire, tu seras ma sécurité sociale, tu seras ma retraite, tu seras tout. Il y a eu un temps, écoutez-moi bien, c'est connu à Grenoble, mon pasteur m'a appelé. Il y a eu un temps, j'ai ramassé des pièces de 5 francs. Il y a eu un temps, devant Dieu, si je vous dis un mensonge ce soir, j'en répondrai devant Dieu, où j'ai ramassé des billets de 500 francs. Ah, ça y est, je les vois. Ce soir, ils vont tous me suivre. Ça y est. Il y a eu un temps où j'ai connu, en Algérie, j'en parlais avec votre pasteur, Seigneur, j'avais 170 francs en poche. Ils ont cru à mon baratin évangélique. Mais bien sûr, je parle comme ça, soit vrai devant Dieu. J'aurais prêché la foi de toutes. Ils m'ont cru, ces jeunes universitaires, Salah, de Tizi Ouzou, Tariq, tous les pasteurs actuellement, tous, toute l'église. Ils y ont cru. Alors ils m'ont téléphoné, Philippe, on a trouvé l'église. J'avais promis que Dieu allait leur donner une église. Ils disent, on a trouvé. C'est l'ancienne école maternelle de Tizi Ouzou, menacée par les islamistes d'égorger les enfants. Hein. Et c'est vrai, j'ai fait mes premiers cultes dans une salle d'école maternelle. Il y avait Dingo, Pluto et tout, plein au mur. Il y avait toutes les icônes, tu vois. Et on faisait le culte. Et il faut 50 millions. Oui, 50 millions, mais bien sûr, j'ai pas de salaire à ce moment-là. Et j'arrive en Algérie. J'ai 170 francs en poche. 50 millions? Il manque plus que 50 millions, au moins 170. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Bon, qu'est-ce que font les pasteurs quand ils ne savent plus quoi faire? Ils prient. Ah, ne le dites pas. Bon, écoutez les gars, on va voir demain. Je vais dormir là où je devais dormir. À 4 heures du matin. Un espèce d'affolé qui crie, je dormais à côté d'une mosquée. Oh, bon, c'était l'appel à la prière, oh, je te dis pas. Je me lève glacé de terreur. J'étais attaqué à fond par le diable. Quoi? Toi, tu vas faire quelque chose en Algérie? Allez, sauve-toi vite pendant que tu es encore 20 cm de haut, quoi. Purée, je saute de mon lit. La peur, c'est un esprit. Hein, je prie à genoux, Seigneur, je disais ça, je refusais la peur, la crainte. Et à 8 heures du matin, je sors. Une bagnole s'arrête devant l'immeuble où je suis. Un gars, j'ai sa carte de visite, même encore, non pas sur moi, elle est à la maison, j'ai sa carte de visite. Il sera certainement un jour le ministre de l'économie et de la. Voilà, en Algérie et tout ça. Il arrive en bagnole, je ne connais pas ce gars-là, une Safrane et tout ça. Il me dit, Monsieur Martinez, oui, des costumes, quoi, bien. Montez la voiture, il faut faire gaffe à ce moment-là. Tu montes avec un frère, hein, tu peux te disparaître. Et à l'époque, ça barde sévère. Bon, je sais que je vais mourir un jour, mais je ne suis pas pressé, je ne veux pas devancer l'appel, tu vois, il faut être prudent. Et donc, je monte avec un frère, il me dit, vous avez du temps, vous venez avec moi. Il m'emmène, il dit, je suis chef d'entreprise, venez avec moi. Il m'emmène dans son entreprise, une immense entreprise, je ne connais pas ce gars-là. Et il me dit, venez voir. Et il m'emmène, une grande salle, plus grande que votre église, son bureau. Et il était pratiquement vide, avec une bibliothèque au fond. Il m'emmène, il pousse les livres, il me dit, approchez, approchez. Approche, il tire un petit carton. Tu sais comment on met sur les tables, monsieur le ministre, quand des tables de conférence ou de restaurant, quand tu vas voir les gens, et il me le tend. Écrit en lettres gothiques, noires, langue de Chine, j'aurais toujours, c'était marqué, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je n'en ai pas, il me dit, c'est lui qui s'est converti à Paris, dans la rue. Et bref, je termine dans un restaurant et dans une banque. Il me dit, je vous envie, on va travailler ensemble, avec nous comme ça, hein, qu'est-ce que vous avez besoin? J'ai besoin de 50 millions. Il m'emmène dans une banque. Il y a Kalachnikov et tout ça. Je ressors l'après-midi, au bout de 2 heures, avec un sac poubelle, avec 14 kilos de billets de banque. Ma première église, on a eu comme ça, sans un emprunt, sans rien. J'ai dit, vous me donnez 50 millions, vous ne savez même pas qui je suis. Il me dit, c'est bon, j'ai vu dans votre cœur, ça suffit. Hein. Frères et sœurs, je vais arrêter là ce soir parce que l'heure est avancée. Je voudrais vous encourager. Excusez-moi d'avoir été aussi long. Il est vivant. Il est capable pour toi de faire toutes sortes de miracles. Aie confiance en Dieu. Parle-lui souvent. Dis-lui combien tu es amoureux de lui. Tu as envie de le servir. Je ne sais pas ce qu'il va dire, où tu vas le servir, mais il ne t'abandonnera jamais. Il est ta source de tout, de tous tes besoins, de toute son œuvre. Si ton cœur est tout entier à lui, si tu le fais vraiment par amour pour lui, il est capable de faire tourner la terre à l'envers par amour pour toi. Tu es précieux à ses yeux. Amen. Ce soir, je voudrais vous inviter tout simplement à semer en terre. On a vu la semence. C'est toi la semence. Ce soir, on va se lever à notre place. On va lui dire. Seigneur Jésus, moi je te donne toute ma vie future, même si vous êtes des chrétiens, moi je veux te servir. Je veux te servir dans cette dimension de miracle, de démonstration de foi. Je veux ça, je vais prier pour vous. Je laisserai le pasteur après finir. Pardonnez-moi, l'heure est avancée, mais il y aurait tellement de choses à dire. J'aurais pu parler de miracle, de guérison, de toutes sortes de choses, mais il est vivant. Père Céleste, nous voulons te rendre gloire ce soir. Élevez vos mains comme ça devant le Seigneur, comme un enfant s'attend à recevoir un cadeau. Je ne vous regarde même pas, ça ne me regarde pas, c'est votre intimité devant Dieu. Que chacun s'occupe de lui. Et puis réfléchissez une minute simplement à ce que vous désirez le plus ce soir. Je crois que c'est dans les psaumes où il dit hein, qu'il est éternel qui veut accomplir tous tes vœux. Dites-lui, ça peut être la réintégration d'un enfant à la maison pour lequel vous faites du souci. Ça peut être une situation matérielle, sociale plus équilibrée, plus rassurante. Dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de voir une démonstration de ta grâce encore dans ma vie. Et une fois que c'est fait, vous avez mentionné, vous lui dites avec moi, Seigneur Jésus, ce soir je t'offre toute ma vie. Ce soir, c'est ma vie que je plante en terre pour toi. Dès ce soir, dès demain, je vais prendre du temps pour t'écouter. Et t'écouter longtemps, jusqu'à ce que tu viennes. Toi, tu vas me dire, c'est toi le chef, c'est toi le maître d'œuvre. Toi, tu vas me dire ce que je dois faire, comment le faire. Je reviendrai toujours à toi. Toujours, tu me diras où je dois aller, ce que je dois faire. Veille sur mon cœur. Veille sur ma vie. Ne me quitte jamais. Seigneur, je te donne toute ma vie ce soir encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te prier pour tous ceux et toutes celles, ce soir qui ont les mains levées. Seigneur, je te prie pour la communication du don de la foi dans la vie de ces bien-aimés. Ces mains qui sont levées devant toi, Seigneur, mains de foi, mains de guérison pour les nations. Seigneur, comme la Vierge d'Aaron, toutes les situations qu'ils vont toucher par leurs propos, par leur voix, par leur prédication, par leur témoignage, Seigneur, qu'elles ressuscitent les situations mortes, que les divorcés reviennent. Seigneur, que les enfants estropiés soient guéris. Seigneur, que les situations à la braque, à la banque financière soient restaurées. Éternel, que leur parole apporte la vie et la résurrection partout où ils vont passer. Parce que tu habites en eux, parce que tu es la résurrection et la vie, parce que sans toi nous ne pouvons rien faire, parce que c'est toi la résurrection et la vie. À ton nom tu donnes gloire ce soir. Touche-les, je te prie pour la communication du don de la foi et qu'il leur soit donné énormément d'occasions d'exercer leur foi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'arrête là ce soir. Bien-aimés, l'heure est avancée. On continuera demain. Je laisse votre pasteur. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes formidables. Ne doutez jamais de la valeur que vous avez devant Dieu. Amen.